They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, nouvelle semaine consacrée aux universités, un monde en chantier. Une émission préparée ce matin par Sophia Anastasio, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Xavier Martinet, Audrey Rameau, réalisée par Perret Legras, mise en onde par Jacques Azubert. Les universités donc, de Pékin à Sao Paulo en passant par Johannesburg, petit tour du monde des défis auxquels elles sont confrontées, depuis la délicate question du financement jusqu'à l'université comme lieu de contestation sociale et politique. Et pour commencer, on va s'intéresser à la compétition entre ces établissements. Les universités sont elles aussi dans un environnement extrêmement concurrentiel. Elles doivent s'adapter à la mondialisation, faire preuve d'inventivité pour sortir leur épingle du jeu. On s'intéresse ce matin à la bataille des universités.
Les universités chinoises sont en train de faire une percée fulgurante. C'est ce que montre le dernier classement de Shanghai, ce palmarès mondial des plus grandes universités.
Les universités italiennes et espagnoles sont toutes passées après la 150e place. Barcelone, la Sapienza à Rome, etc. etc. C'est des très bonnes universités. Mais bon, vous avez tout d'un coup 10 universités asiatiques qui montent là parce qu'il y a un potentiel extraordinaire. Bientôt, la Chine va dépasser en termes de publication les États-Unis.
Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en général, ne sont prises en considération dans le classement de Shanghai que les sciences et la médecine. Ce qui signifie que tout un pan d'excellence de notre université, comme le droit, les sciences politiques, les sciences sociales et humaines, ne sont pas prises en compte dans le classement.
L'Europe a un besoin d'investir dans l'innovation, dans la formation, dans les universités, qui est le problème structurel. Ce n'est pas normal que 90% des meilleures universités mondiales soient aux États-Unis.
Un besoin donc d'investir dans l'université, nous disait Thomas Piketty. Chaque année, il est attendu, commenté par le monde universitaire. Depuis 2003, le classement dit de Shanghai établit le palmarès des 500 meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Un palmarès qui fait la part belle aux universités anglo-saxonnes, Harvard, Stanford, l'Institut de technologie du Massachusetts, Berkeley, Cambridge, échangent régulièrement les premières places. La France, elle, n'apparaît qu'à la 65e place dans la première version du classement avec l'université Pierre et Marie Curie. Paris 6, désormais classée à la 36e place. Très critiquée par beaucoup, voire carrément méprisée, surtout lorsqu'il nous est défavorable. On se félicite pourtant lorsqu'on y progresse. Quoi qu'il en soit, le classement de Shanghai continue de faire référence dans un milieu universitaire où la compétition s'intensifie à l'échelle mondiale et où la compétitivité devient le maître mot. Alors au-delà de ce classement, comment se manifeste cette concurrence entre l'université ? Quel est son impact sur l'enseignement ? Quelle est l'influence de ces classements qui se multiplient ? Sont-ils réellement destinés aux étudiants ? On ira ce matin du côté de la Chine. Chaque année, l'Empire du Milieu parvient à progresser, à faire progresser ces universités dans le classement de Shanghai. Nous essaierons de comprendre la raison de ce succès, mais aussi peut-être de voir quelles sont les difficultés qui perdurent malgré tout. On retrouvera tout à l'heure Ding Yifan, qui est professeur de la chaire Ying Yang à l'Université des langues étrangères à Pékin. Et puis on évoquera le cas de l'Europe aussi, qui essaye de mettre en place un classement alternatif avec d'autres critères et peut-être aussi d'autres objectifs, le U Multirank. On en parlera tout à l'heure avec Nathalie Van Dijkstad, qui est porte-parole de la Commission européenne sur les questions d'éducation, de formation et de la jeunesse. Mais pour évoquer cette bataille des universités, on a invité ce matin évidemment un universitaire. Christophe Charles, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le président de l'ARECER, qui est l'Association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche, auteur d'un ouvrage collectif « La dérégulation universitaire » sous-titré « La construction étatisée des marchés des études supérieures dans le monde », mais également d'autres ouvrages. Je pense à quelques diagnostics et remèdes urgents pour une université en péril. Alors, on va commencer, Christophe Charles, avec ce fameux classement de Shanghai. Les chercheurs de l'université Jiao Tong de Shanghai rendent leur verdict chaque année. Les critiques sont à peu près à chaque fois les mêmes. Alors il faut rappeler peut-être les différents critères qui sont utilisés, Christophe Chard. C'est le nombre de publications dans les deux grandes revues scientifiques que sont Nature et Science, le nombre de citations de ces articles dans les grandes revues scientifiques référencées, le nombre de prix Nobel et de médailles Fields attribués aux élèves et au personnel de l'université. Mais malgré les critiques, Christophe Charles, quand même, ce classement de Shanghai, il s'est imposé, y compris dans le monde universitaire. Quel regard vous portez de façon générale sur le classement, sur les critères qui sont utilisés, et puis surtout, que vous semble-t-il révéler sur la compétition internationale dans le secteur de l'enseignement supérieur ?
Bon, ça fait beaucoup de questions.
On a le temps de détailler, hein.
Oui, on va d'abord commencer par ce classement, puisque c'est vrai qu'il a été très très médiatisé. Bon, il y a une critique qui a été faite principale, et elle est toujours valide, et évidemment elle nous touche particulièrement quand on est historien, c'est que c'est un classement qui ne classe que les sciences, enfin les sciences de la nature, et encore pas toutes les sciences de la nature. Donc ça ne rend compte que de l'excellence des sciences, et donc c'est pas étonnant que ce soit l'université Pierre et Marie Curie qui soit la mieux classée relativement, ou l'école normale supérieure, c'est parce que sont prises en compte essentiellement les disciplines scientifiques, et c'est les points forts de l'école normale supérieure et de l'université Pierre et Marie Curie.
Alors on pourrait vous opposer que l'école polytechnique, par exemple, est très mal classée dans le classement Shanghai, alors que c'est une école scientifique.
Il y a aussi des facteurs aberrants dans ce classement, c'est qu'ils pondèrent en fonction du nombre des professeurs, des étudiants, et comme cet établissement n'est pas un établissement où il y a énormément de professeurs ni d'étudiants, du coup ça les plombe relativement, et c'est aussi une école qui fait pas beaucoup de recherche. Alors, comme c'est les publications qui comptent, comme les professeurs de l'école polytechnique sont pas tous des gens qui font de la recherche, évidemment ils publient pas énormément par rapport à des professeurs d'université traditionnelle. Donc tous ces critères font qu'on peut dire que ça ne mesure qu'une toute petite fraction des fonctions de l'université. Ça ne prend pas en compte en particulier la qualité de la pédagogie. Il n'y a aucun critère là-dessus. Or, pour un étudiant, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si les professeurs lui enseignent des choses qui l'intéressent et qui lui servent, et pas de savoir si ces professeurs font beaucoup de recherches à un très haut niveau, dans la mesure où la plupart des étudiants s'arrêtent au niveau master au maximum. Deuxième critique possible, c'est que les critères de choix des publications sont massivement avantage l'anglais, puisqu'on prend comme revue de référence essentiellement des revues anglophones, et évidemment les revues anglophones tendent à citer eux aussi des articles anglophones. Donc il y a une espèce de cercle vicieux qui fait qu'on ne peut plus considérer que si une publication n'est pas en anglais, elle n'existe pas. Or, il y a des publications encore dans d'autres langues qui sont importantes, mais qui ne sont pas prises en compte. Un troisième facteur qui désavantage la France, c'est que, par exemple, il y a énormément de laboratoires en France qui sont associés à des universités, mais qui ne sont pas considérés comme uniquement universitaires. Et ça, dans le calcul de l'indice de recherche, les chercheurs chinois ne divisent par deux. C'est-à-dire, si vous êtes chercheur CNRS et université, ça, c'est divisé par deux. Alors que, bon, ça, c'est simplement une question de financement. Ça ne fait pas que vous êtes moins universitaire parce que vous travaillez qu'un laboratoire du CNRS. Donc, tout un tas de facteurs ont fait que les universités françaises se sont retrouvées défavorisées. Troisième phénomène, les universités françaises, vous le savez, se sont divisées au moment de mai 68, après la loi Edgar Faure, et il y a par exemple des universités qui n'arriveront jamais dans le classement de Shanghai parce qu'elles sont uniquement sciences humaines ou uniquement juridiques. Et du coup, comme elles n'ont aucune représentation des disciplines scientifiques, elles ne risquent jamais d'apparaître, puisque aucun des critères ne prend en compte leurs activités. Donc, c'est pas du tout pour jouer les mauvais joueurs, c'est que il y a des biais évidents et il y a d'autres types de classements. Il y a le classement notamment du Times Higher Education Supplement qui est fondé lui plutôt sur le jugement interne, mais dans toutes les disciplines. Alors, bien sûr, c'est un jugement comme tout jugement, mais enfin, je veux dire, dans le milieu, par discipline, on sait à peu près quelles sont les bonnes universités, celles où on va envoyer nos étudiants pour faire des bourses postdoctorales ou des bourses doctorales. Et tout ça, c'est quand même aussi un élément d'appréciation. Et puis, on a aussi une connaissance des systèmes pédagogiques. Moi, personnellement, je connais un peu le système pédagogique allemand. Je trouve qu'il est bien meilleur que notre système parce qu'il donne beaucoup plus la parole aux étudiants. Or, ça, c'est un critère qui n'est pas pris en compte du tout dans le classement.
On reviendra, Christophe Charles, sur peut-être les faiblesses du système français, mais vous êtes historien, c'est toujours bien de faire un petit peu d'histoire, même si elle est récente. Vous pouvez nous rappeler dans quel contexte est-ce qu'on a mis en place ce classement de Shanghai et au fond de Shanghai et avec quel objectif derrière ? On est en 2003.
Oui, alors donc ça se situe au moment donc où la Chine émerge véritablement comme deuxième puissance économique. En même temps, elle a fait des réformes essentiellement justement économiques et ils s'aperçoivent que pour être une grande puissance, puisque leur modèle c'est les États-Unis, il faut aussi avoir une puissance scientifique et une puissance technologique d'innovation. Et évidemment, ils ont un peu étudié le système américain et ils voient qu'une des forces du système américain, c'est d'avoir créé cette relation vertueuse entre un certain nombre de laboratoires universitaires, des grandes administrations qui financent des recherches et aussi, bien sûr, des entreprises qui utilisent ou commandent aussi des recherches. Et ça, c'est un système qui, évidemment, n'existe pas en Chine à l'époque, puisqu'on est encore dans une économie très étatisée, très dominée par des grandes entreprises publiques. Et d'autre part, on est aussi dans des grandes universités qui sont très bureaucratiques, qui ont été un héritage en fait des premières réformes chinoises qui remontent aux années 60, qui sont en fait très influencées encore par un modèle assez soviétique, où il y a une séparation entre des académies qui font de la recherche, sur le modèle des académies soviétiques, et des universités qui font que de l'enseignement. Et donc le classement de Shanghai a pour but de montrer que les universités chinoises ne sont pas du tout conformes à ce modèle et qu'il faut qu'elles développent la recherche à l'intérieur de l'université au lieu de la développer à l'extérieur, d'où l'utilité de montrer que les publications sont importantes pour classer la valeur des professeurs et aussi inciter les professeurs à ne pas être que des pédagogues et à vraiment publier dans des revues visibles.
Donc en fait, si je comprends bien, en réalité, quand on met en place ce système de Shanghai, c'est à la fois pour critiquer le modèle chinois et peut-être aussi pour mettre en valeur, d'une certaine manière, le modèle vers lequel on voudrait tendre, à savoir le modèle américain.
Oui, je pense que c'est ça le vrai fond des choses, d'où l'avantage donné à toutes les caractéristiques qui sont valorisées dans le modèle américain pour que les Chinois se mettent à la... Alors, une deuxième phase, c'est quand le gouvernement a pris en compte ce classement, il se dit, on va essayer d'aligner nos universités sur ce modèle et ils vont créer des initiatives, un peu ce qu'on a fait en France aussi, l'initiative d'excellence, c'est-à-dire donner des crédits supplémentaires aux universités qui seront conformes à ce modèle international ou qui se couleront dans ce modèle pour monter dans le classement. Donc il y aura une valorisation des disciplines évidemment de sciences dures, il y aura une valorisation des chercheurs qui publient plus, à qui on accordera des facilités de temps libre, des primes de recherche, etc. Toutes choses qu'on a faites également en France.
Et un peu plus tard, avec un petit peu de retard, c'est les fameuses initiatives
2005,
d'excellence.
En France c'est 2005. Ouais.
Pas les initiatives d'excellence.
Non, mais l'évaluation, 2011. Les principes d'évaluation de la recherche, ça a été mis en place à partir de 2005, la ERES, la NR aussi c'est 2005 et l'initiative d'excellence c'est 2008, mais il y avait eu un phénomène du même type en Allemagne en 2005. Donc on voit bien que les gens se regardent les uns les autres, se copient et s'imitent avec des décalages liés à des conjonctures politiques. Donc on va faire aussi ça au Japon, il y a aussi des centres d'excellence qui vont être dégagés au Japon avec des primes de recherche, avec des crédits supplémentaires. Enfin on voit bien que c'est une politique qui s'internationalise et où il y a des effets de miroir entre les pays.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces effets de miroir, ces effets d'imitation, en fait, ils datent pas d'aujourd'hui. C'est bien plus ancien que ça. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que toutes les universités du monde veulent ressembler aux universités américaines. Mais en réalité, ce phénomène consistant à s'inspirer des modèles des voisins, il a toujours existé. Il y a toujours eu des emprunts réciproques, disons. Les systèmes universitaires se sont construits, finalement, les uns par rapport aux autres. Vous aviez écrit, alors j'ai pas le titre exact sous les yeux, mais une histoire des histoires, voilà, vous me le tendez, une histoire des universités, dans lequel vous expliquez par exemple que le système universitaire allemand du 19e, il s'est construit en opposition au système français.
Oui.
Et puis ensuite, les Français sont allés puiser dans le modèle allemand.
Et puis aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une fascination déjà pour les États-Unis dans les pays européens. On envoie systématiquement des scientifiques faire des stages dans les laboratoires américains et on importe aussi des modèles de pédagogie américaine ou le système d'organisation en département, enfin toutes sortes de choses qui sont présentes dès la loi Edgar Faure. L'invention des unités d'enseignement et de recherche, c'est une reprise des départements américains pour casser le système des facultés. Donc il y a toujours cette circulation. Mais là, c'est devenu vraiment plus au nom d'arguments économiques et d'arguments de compétitivité financière parce qu'on pense que la science devient une source de richesse, une source d'emploi. Enfin, bon, tout ça, c'est discutable, parce que quand on regarde dans le détail, c'est pas aussi vrai que ça, mais la notion d'économie de la connaissance.
Ah oui, alors ça, c'est très intéressant, parce que quand on regarde le podium des pays qui disposent du plus grand nombre d'universités dans le palmarès de Shanghai, on a la hiérarchie suivante. États-Unis, d'abord, avec 146 établissements, la Chine, ensuite 44, l'Allemagne avec 39. Si on compare avec le podium du PIB, produit intérieur brut, bah, la hiérarchie, c'est quasiment la même. C'est 1 États-Unis, 2 Chine, 3 Japon, c'est vrai, et 4 Allemagne. Mais on voit que le classement de Shanghai, il révèle plutôt bien la hiérarchie économique mondiale. Que vous inspire ce vil commentaire?
Bah, c'est pas totalement un hasard, c'est qu'il y a aussi une question de richesse. Hein. Plus on a d'argent, plus on a des budgets, plus on a des financements, plus on peut consacrer d'argent à des investissements de ce type, qui sont des investissements à long terme ou à moyen terme. Et c'est clair que les pays pauvres, c'est pas leur priorité d'investir dans les universités. D'ailleurs, l'état de la plupart des universités africaines démontre à l'inverse que vous venez de dire. Mais au-delà de ça, il y a aussi des tradition culturelle, c'est-à-dire que bon, les États-Unis ont été toujours très attachés à leurs universités depuis très longtemps, avant même qu'elles soient le premier pays du monde. Hein. Les grands mécènes ont créé des universités au 19e siècle, alors que les États-Unis n'étaient pas encore la puissance dominante. Donc il y a aussi des traits culturels. L'Allemagne aussi a toujours attaché beaucoup d'intérêt à ses universités, et évidemment cet héritage a permis de maintenir ce rang. Le fait que le Japon, lui, ne soit pas exactement au rang où il devrait être, si on applique votre raisonnement de façon mécanique, montre bien que justement c'est pas aussi automatique. Et la France a toujours été un pays intellectuellement productif, mais n'a pas toujours fait l'effort sur ses universités. Ça passe parfois par d'autres établissements, les grandes écoles en particulier, qui sont outrageusement avantagées en termes de budget, mais qui n'ont pas cette visibilité internationale que peuvent avoir des universités. Donc vous voyez, il y a effectivement globalement, si on raisonne très globalement, il y a un lien, parce que c'est lié à des ressources, et c'est lié à une dynamique économique, mais il y a aussi des décalages liés à des traditions culturelles.
Allez, on va aller justement du côté des États-Unis. Avril 55, la télé américaine rend hommage à peut-être l'une des plus grandes figures scientifiques du XXe siècle.
Einstein, brilliant physicist and theoretical mathematician, died at Princeton Hospital in the same seclusion which cloaked virtually all his activities in life. Einstein entered the hospital Friday, died this morning after refusing surgery, which it turned out would not have helped him recover from a ruptured artery. He became a U.S. citizen in 1940, but his speech was heavily flavored with the accent of his native Germany.
The idea of achieving security through national armament is at the present state of military technique.
Voilà, vous reconnaissez peut-être la voix d'Albert Einstein. Son parcours, il est intéressant puisqu'il a précisément fini sa carrière aux États-Unis à Princeton, là où il s'est éteint.
Oui, enfin là, c'est lié à des événements politiques dont il se serait certainement.
Oui, mais c'est peut-être pas un hasard s'il
non,
va aux États-Unis.
Non, c'est pas un hasard. C'est parce que les États-Unis ont été le seul pays qui a accueilli massivement des réfugiés, beaucoup plus que la France ou l'Angleterre. Donc,
je vous l'accorde. Par ailleurs, Princeton, c'est une université qui est toujours classée dans le top 10 de ce classement de Shanghai. La première question, c'est depuis quand les universités américaines finalement apparaissent comme les meilleures universités du monde? Est-ce que c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, justement? Ou est-ce que c'était déjà le cas avant? Et puis, la question qui va derrière, c'est finalement, pourquoi ces universités américaines sont les mieux placées dans ce classement de Shanghai? Et est-ce qu'on n'a pas tendance, d'une certaine manière, à fantasmer ce modèle américain au regard de ses meilleurs établissements, Harvard, Stanford, Cambridge, Columbia, Princeton, justement, qui, en réalité, ne reflèteraient peut-être pas complètement le système états-unien dans son ensemble?
Oui, ça c'est sûr. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de système états-unien, ça c'est encore un mythe. Il y a un certain nombre de grandes universités, surtout privées d'ailleurs, parce que la plupart de celles qui sont en tête sont plutôt financées principalement par des ressources privées. Il y a quelques grandes universités publiques comme Berkeley, mais la masse des universités américaines, c'est-à-dire 2 ou 3 000 établissements qui s'intitulent universités, sont essentiellement des collèges de deuxième ou premier cycle et qui ne font pas de recherche, c'est-à-dire qu'ils sont là pour former une main d'œuvre, disons, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, qui vont ensuite devenir des cadres moyens, des professions intermédiaires, un petit peu des cadres supérieurs. Mais la toute petite minorité dont on met en avant les réussites, c'est 25 ou 30 établissements sur 2000. Donc c'est comme si on jugeait, disons, la France sur quelques écoles primaires pour l'ensemble de l'enseignement primaire, etc. Donc c'est un peu une vision très biaisée. Et en plus, c'est les universités qui ont tous les avantages, c'est-à-dire qu'elles sont les plus anciennes en général. La plupart sont celles qui ont été fondées dès le 18e ou le 19e siècle, donc qui ont eu une accumulation de richesses par des donations, par des contrats de longue durée avec toutes sortes de sponsors ou d'entreprises. C'est celles qui aussi ont un potentiel d'anciens étudiants qui ont réussi le mieux, parce que comme quand on vient d'une bonne université, on a en général meilleure carrière aux États-Unis, etc. Et c'est ces gens-là qui aussi ont plus d'argent à donner après en reconnaissance à leur université. Donc il y a une espèce de cercle vertueux, mais qui par définition ne peut pas se généraliser ni à l'ensemble des universités américaines. Certaines ont des ressources limitées comme toutes, comme les nôtres, et d'autre part ne peut pas non plus se généraliser à l'ensemble des pays du monde, puisque c'est des conditions écologiques extraordinairement spécifiques, dont même l'Angleterre n'a pas l'équivalent. Pourquoi c'est Cambridge et Oxford qui arrivent en tête? Parce que c'est des universités qui ressemblent un peu aux universités américaines, parce qu'elles sont des fondations médiévales très anciennes qui ont une fortune foncière et des ressources financières liées aussi au fait qu'elles forment les élites anglaises qui elles-mêmes à leur tour donnent de l'argent, etc. Donc on est dans un modèle très très spécifique dont il n'y a aucun équivalent ni en Allemagne, ni en France, ni en Italie, enfin dans aucun pays européen. Donc vouloir imiter ça, c'est un peu essayer de faire une course de Formule 1 avec un vélo tout terrain, en gros.
Sans forcément vouloir imiter, essayons peut-être de comprendre comment il fonctionne. Parce qu'aux États-Unis, les universités se livrent les unes les autres une bataille terrible pour attirer notamment les meilleurs professeurs. Ce qu'on appelle l'académique market aux États-Unis. Vous en parlez un peu ?
Oui, alors ça aussi, c'est évidemment une originalité. On en trouve un peu un équivalent en Allemagne, où il y a aussi une possibilité pour des professeurs de gérer, disons, leur réputation et leur qualité en demandant de changer d'université. Et si l'université refuse de le laisser partir, elle augmente le salaire. Enfin voilà, donc il y a un peu un petit équivalent, mais c'est pas à la même échelle, bien sûr, qu'aux États-Unis. Mais là aussi, ça ne concerne qu'une toute petite minorité de professeurs. Qui sont ceux qu'on appelle titulaires. Et la grande masse des enseignants universitaires maintenant aux États-Unis sont précaires, c'est-à-dire ont des contrats à durée déterminée. Beaucoup d'entre eux ne sont pas reconduits et sont obligés de changer de métier après. Donc là aussi, c'est comme si on jugeait le show business sur, disons, ceux qui font partie du top 50, quoi. Alors évidemment, ça fascine ceux qui voudraient entrer dans ce système parce qu'ils espèrent que leur salaire va augmenter de façon astronomique, mais oui, ça représente quand même un tout petit pourcentage.
Ce qu'on n'imagine pas forcément ici, c'est qu'il peut y avoir des différences colossales en termes de salaire.
C'est ce qu'on dit. Comme ils disent, il y a les salaires à 5 chiffres, et puis il y a les salaires à 4 chiffres ou à 3 chiffres, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et puis, surtout, ça concerne surtout certaines disciplines qui, évidemment, peuvent avoir cette réputation internationale, l'informatique, l'économie, certaines formes de droit qui ont un lien avec les droits des affaires, où il y a effectivement non seulement l'academic market, mais ce sont souvent des gens qui cumulent aussi des ressources de consulting ou d'expertise au niveau de grandes sociétés.
C'est des domaines où, par ailleurs, on va aller chercher des prix Nobel pour pouvoir ensuite utiliser leur présence dans l'université comme un véritable argument de vente auprès des étudiants. Alors après, à savoir si ça fonctionne ou pas, j'en sais rien, mais...
Ça fonctionne que pour les disciplines où il y a des prix Nobel, c'est-à-dire très peu de disciplines. Et d'autre part, malheureusement, on a souvent le prix Nobel assez tard, donc on n'a plus tellement une espérance de vie académique devant soi de long terme. Quand on voit l'âge moyen des prix Nobel, c'est pas quand même des gens de 40 ou 30 ans, c'est plutôt 50, 60.
Oh, mais en même temps, c'est bien l'expérience pour les étudiants.
Non, c'est bien, mais ces gens-là n'ont pas envie de faire du premier cycle. Ils vont surtout aller vers des étudiants de doctorat ou de post-doctorat.
Et alors, question idiote, c'est un véritable gain d'avoir un prix Nobel dans son
c'est
université
un gain pour
un étudiant, j'entends. Hein.
C'est un gain pour le classement de Shanghai, puisque ça fait partie des critères. Pour l'étudiant, quelle est la probabilité qu'il le rencontre dans sa vie? Voilà, c'est ça la question.
La réponse est là. dans quelle mesure, justement, ce classement de Shanghai, il joue sur l'attractivité des universités? Est-ce que les étudiants y sont sensibles, d'abord? Et est-ce qu'ils se tournent réellement vers des universités qui sont particulièrement bien classées?
Moi, je pense qu'il faut raisonner en termes de masse. C'est-à-dire, la plus grande masse des étudiants, c'est du premier cycle. C'est pour des gens, c'est totalement... ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vont faire, eux. Le deuxième cycle, c'est encore assez lointain. Donc, ça n'a un sens, je pense, et on le voit bien d'ailleurs quand on voit les flux d'étudiants internationaux, au niveau du troisième cycle, où effectivement, là, effectivement, pouvoir rencontrer des chercheurs très bien classés, à une grande réputation, ça peut avoir un intérêt, ça peut décider d'une vocation. Mais ça, à mon avis, ça concerne vraiment que la minorité qui fait des doctorats ou des postdoctorats, donc c'est à peine 10% de l'ensemble des étudiants du monde, et pour certaines universités, c'est beaucoup moins, puisqu'il y a des universités qui font très peu de doctorats.
Donc il n'a pas forcément le poids qu'on voudrait bien lui donner.
En termes de flux étudiants, non. Quand on regarde les flux étudiants, j'ai fait une statistique là dans l'ouvrage Histoire des universités, on voit que la majorité des étudiants asiatiques restent en Asie, même s'ils changent de pays, la majorité des étudiants européens restent en Europe. Et évidemment, il y a une attractivité spécifique des États-Unis, mais là aussi, c'est limité à certaines universités, à certaines disciplines. Et donc, ça ne joue que sur un marché assez minoritaire par rapport à la masse des universités du monde.
Ce qui est confirmé dans cette étude, récente étude de Campus France, qui est une agence publique qui est chargée de défendre les universités françaises à l'étranger, qui révèle que seulement 18% des étudiants connaissent le classement de Shanghai et seulement 11% l'utilisent. C'est relativement peu.
Oui, non, je crois que ce qu'ils utilisent, enfin, en tout cas.
Ça vaut ce que ça vaut, une fois encore.
Non, mais il y a eu tout un travail sur les étudiants Erasmus, qui, c'est déjà des étudiants qui ont une vocation à la mobilité. Il faut rappeler que ces étudiants Erasmus représentent que 2 à 3% des étudiants européens, ce qui est quand même, ça montre l'échelle. Et d'autre part, quand on regarde, ce qui compte pour eux, c'est plutôt l'aspect linguistique, c'est-à-dire quelles sont les langues que je vais essayer de maîtriser grâce à ces séjours à l'étranger qui vont m'apporter un plus dans ma carrière académique. Donc, à la limite, ils préfèrent presque aller en Irlande parfois parce que la vie est moins chère qu'en Angleterre et où on peut apprendre aussi bien l'anglais qu'en Angleterre. Donc, vous voyez, c'est des rapports coût-efficacité. C'est moins sophistiqué que de regarder des classements de Shanghai.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour des universités, un monde en chantier. Et aujourd'hui, au-delà des classements, la bataille des universités, c'est notre sujet ce matin avec Christophe Charles, professeur d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le président de l'association de réflexion sur les enseignements supérieurs et la recherche. On va prendre à présent la direction de la Chine.
Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'une des entrées décorées de l'université de Pékin. Le bâtiment là-bas, c'est le gymnase de l'université. Vous voyez un peu comme il est grand. Ici, c'est le bâtiment des sciences informatiques. Il est immense également. Oui, c'est amusant, il y a même un observatoire. Voici la salle de spectacle de notre campus. Et ce bâtiment là-bas, c'est la bibliothèque qui, comme vous pouvez vous y attendre, énorme. Je pense que les Chinois ont tendance à exagérer la taille de leur bâtiment. Il y a 6 cantines sur le campus. Vous trouverez des banques, une poste, une supérette où vous pouvez tout acheter, des vêtements à la nourriture en passant par les médicaments. Et autour, vous pouvez voir les dortoirs des étudiants chinois.
Voilà un étudiant qui nous fait visiter son campus de Pékin, Beida, cette université créée en 1898. En anglais, vous l'aurez remarqué, on va retrouver un professeur chinois justement qui est à Pékin, Ding Yifan, professeur titulaire de la chaire Yingyang à l'université des langues étrangères de Pékin. Il a été directeur adjoint de l'Institut du développement mondial à Pékin. Il est maintenant à la retraite. Il a enseigné les relations internationales à l'université de Pékin et le français également à l'université des langues étrangères de Pékin, ce qui explique son très bon français. Il est maintenant professeur titulaire de cette chaire à l'Université des langues étrangères de Pékin, où il enseigne l'économie, la science politique, les relations internationales. Il a une très bonne connaissance du fonctionnement des meilleures universités chinoises, mais aussi des universités françaises, puisqu'il a été formé à Sciences Po Bordeaux, mais aussi des universités américaines où il a été invité. Alors, dans le classement de Shanghai 2014, sur les 200 meilleures universités, on trouve 9 établissements chinois. C'était seulement un établissement en 2004. Donc c'est une véritable progression. Que vous inspire, Ding Yifan, cette progression? Et puis plus généralement, quel crédit vous accordez à ce classement de Shanghai?
Les universités chinoises ont avancé dans le classement Shanghai, etc. C'est probablement à cause de prise en compte de certaines conditions qui étaient plus ou moins négligées.
Quand on regarde les choses de près dans ce classement, le fait est que les premières places sont trustées par les universités américaine, anglo-saxonne en général, mais surtout américaine. Est-ce que ça a pour effet de pousser la Chine vers ce modèle anglo-saxon et ce modèle américain en particulier? Est-ce que vous observez, vous, un phénomène d'imitation du côté des universités chinoises?
Il y a évidemment une influence importante des universités américaines sur l'éducation nationale sur l'éducation supérieure en Chine, parce que il y a eu beaucoup d'échanges entre les universités américaines et les universités chinoises, et souvent, parmi les professeurs, beaucoup ont été formés dans les universités américaines. Donc, il y a une influence très importante.
D'ailleurs, effectivement, de plus en plus d'étudiants chinois ont la possibilité d'effectuer une partie de leur cursus, en tout cas dans des universités étrangères, en particulier dans des universités américaines. Ça, c'est quand même une formidable reconnaissance. C'est le signe qu'on reconnaît aussi les formidables progrès des universités chinoises.
Et vice-versa, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants américains qui viennent faire des études en Chine. En sens inverse, il y a de plus en plus d'étudiants chinois. Les étudiants chinois restent toujours les étudiants les plus importants étrangers aux États-Unis. C'est une tradition. Et maintenant, comme la Chine est devenue plus importante, et l'enseignement du chinois est devenu ce qu'on appelle l'enseignement d'une langue stratégique aux États-Unis. L'enseignement du chinois est généralisé au niveau secondaire, dans les lycées, dans les écoles secondaires, etc. aux États-Unis. Et au niveau universitaire, il y a aussi beaucoup d'enseignement de chinois.
Finalement, vous êtes heureux de voir cette ouverture grandissante des universités chinoises d'un côté et de l'autre. Ces Chinois, effectivement, qui vont dans des universités étrangères et puis les étrangers qui viennent dans les universités chinoises.
Oui.
Mais certains s'inquiètent justement de cette ouverture grandissante. Vous avez entendu l'année dernière le ministre de l'Éducation nationale, Yuan Guiren, signifier aux universités l'interdiction de propager les valeurs occidentales dans les universités. Ça veut dire que l'ouverture, elle a aussi ses limites. Et cette limite, c'est le respect du Parti communiste chinois, notamment.
Je pense qu'on a souvent mal interprété ces propos. En Europe, il y a toujours des contenus qui sont interdits d'être mentionnés. Par exemple, le massacre juif ou l'Holocauste.
Mais en Chine, les sujets tabous.
Les sujets tabous sont la révolution culturelle, le jugement de la gouvernance du Parti communiste, etc. Et souvent, ces tabous ont été violés dans une université chinoise. En fait, il y a beaucoup plus de liberté que vous n'imaginez dans une université chinoise. C'est ça qui rend le ministre un peu alerté.
Des libertés tant qu'il y a ce respect envers le Parti communiste chinois. Je le précise parce que c'est pas moi qui l'invente. Il l'avait précisé, il l'avait mentionné l'année dernière lors de son intervention, ce respect du Parti communiste chinois. Une question d'Ying Yifan. Depuis quelques années, les universités chinoises, c'est vrai partout dans le monde, mais c'est vrai en particulier en Chine, disposent d'une autonomie de plus en plus renforcée. Elles peuvent gérer leur financement, elles peuvent faire appel à des fonds, y compris à des fonds privés, on peut faire appel à des dons, on crée des partenariats.
Il y a beaucoup de programmes de recherche financés par les privés, par des dotations, par des fonds d'investissement.
Comment cette évolution a-t-elle été accueillie par le monde universitaire et dans quelle mesure il vous semble que ça a permis d'améliorer la compétitivité des universités chinoises dans le marché mondial de l'enseignement supérieur?
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a visiblement une volonté du gouvernement chinois d'orienter la recherche de l'éducation supérieure dans un sens plus pratique, etc. Et en plus, il y a un besoin des entreprises chinoises d'avoir un peu plus de renfort technologique de la part des universitaires dans le sens d'innovation technologique. C'est pour ça que les universités reçoivent de plus en plus de dotations et de sponsorship des entreprises, et voire même des zones d'affaires privées. Mais ça leur oblige aussi de faire des efforts de recherche pour rendre une part de recherche fondamentale en produit, pour répondre plus un peu au marché, etc. Ce qui fait que depuis ces dernières années, Il y a eu des résultats assez positifs de coopération entre des universités chinoises et des entreprises.
Il faut dire que c'est une nécessité absolue en Chine, parce que la grande difficulté aujourd'hui pour la Chine, c'est d'assurer l'entrée des jeunes diplômés sur le marché du travail. Et en la matière, les choses sont de plus en plus compliquées, parce qu'on a beaucoup de jeunes diplômés qui ne parviennent pas à trouver un emploi à la sortie de leurs études. Et donc, il faut absolument améliorer cette situation et finalement mieux organiser cette articulation entre le monde de l'entreprise, le monde du travail et celui des universités. Et en même temps, on peut s'inquiéter, Ding Yifan. Après tout, est-ce que les entreprises doivent prendre le contrôle des universités? J'exagère un petit peu, mais volontairement.
Heureusement, ce n'est pas aussi grave que ça, parce que les entreprises n'arrivent pas à contrôler les universités. Les universitaires sont suffisamment indépendants et libres pour résister à ce genre de tentation. Jusqu'à maintenant, ce sont des programmes conjoints de coopération ou de développement et de recherche, etc., entre les entreprises et quelques disciplines de universitaires. Donc, les universités ne sont pas complètement financées par les entreprises. Par contre, en Chine, comme il y a de plus en plus d'universités privées financées à ce moment-là par les entreprises, mais ce genre d'universités ne sont pas classées comme des universités de premier niveau, mais ce sont des universités privées qui forment des ingénieurs et des gens spécialisés dans un domaine bien déterminé.
Oui, vous dites des universités de premier niveau parce qu'il faut comprendre qu'en Chine, on parlait tout à l'heure du classement de Shanghai, mais il y a un autre classement en Chine qui est propre au système chinois où on a trois catégories, avec une première catégorie avec les universités les plus importantes et puis les deux autres où il y a, disons, les établissements peut-être un peu moins réputés, un petit peu plus faibles. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous procédez à ce classement. C'est quoi les critères? Je crois qu'il y a aussi des considérations géographiques dans tout ça. Expliquez-nous un petit peu ce critère propre à la Chine.
En fait, parmi la première catégorie, il y a souvent des grandes universités pluridisciplinaires. En deuxième catégorie, vous avez aussi des universités plus ou moins spécialisées dans des disciplines encadrées, etc. La troisième aussi, des écoles de formation, etc. Ils ont été transformés en universités pour élargir la panoplie d'universitaires. Mais en fait, ce sont j'appelle des universités de troisième catégorie. Et souvent, pour aller à l'étranger, par exemple, des universités anglo-saxonnes ne reçoivent que des étudiants des universités de la première catégorie, par exemple.
Ding Yifan, professeur titulaire de la chaire Yiyang à l'Université des langues étrangères à Pékin, professeur invité à l'Institut des études internationales de l'Université de Pékin et chercheur de l'Université de Tsinghua. Christophe Charles, peut-être réaction sur cette Chine qui vise l'excellence avec ses universités, qui vise aussi le modèle américain, on l'a vu. Que vous inspire ce que nous dit le professeur Yifan?
Je crois que je vais, disons, tempérer cet optimisme, dans la mesure où j'ai moi-même été plusieurs fois faire des cours en Chine, parce qu'on avait un accord entre Pariens et une école, enfin une université de Shanghai. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, il y a une hiérarchisation qui se produit liée à cette compétitivité. Et que, c'est ce qu'il a dit à la fin, il y a des niveaux d'université très différents. Donc on retrouve un peu ce qu'il y a aux États-Unis avec une hiérarchie. Que cette hiérarchie, elle n'est pas uniquement liée à des considérations académiques. Il y a des secteurs stratégiques par rapport à d'autres qui sont définis, bien entendu, par la politique générale de l'État ou par les choix des entreprises. Donc on voit bien que là aussi, c'est des choses externes à l'université qui interviennent. Et puis, il y a une sélection sociale, il faut bien le dire. Il y a un examen pour entrer à l'université qui est très difficile. Hein, et c'est évidemment les résultats scolaires qui déterminent si on va accéder à telle université ou à telle autre, si dans telle région, on va pouvoir aller dans l'université la plus prestigieuse ou dans une université secondaire. Et donc, il y a tout un bachotage qui se produit avant l'entrée à l'université avec des instituts instituts qui essayent d'aider les gens à passer l'examen, enfin un peu ce qu'on connaît en médecine aujourd'hui en France. Donc tout ça, ça crée des effets un peu de contamination de pratiques qui parfois sont pas forcément excellentes sur le plan intellectuel, parce que on essaye de passer l'examen à tout prix, de réussir les questions qu'on va avoir, etc. Mais ça juge pas forcément la réalité, ça juge surtout la capacité de se mobiliser, d'avoir des ressources pour passer dans ces préparations antérieures, etc.
Mais vous avez le sentiment plutôt que les évolutions aujourd'hui en Chine ont plutôt tendance à renforcer les inégalités, à pousser vers un système de domination.
Tout le monde le constate, hein. Il y a effectivement, parce que ceux qui peuvent aussi aller à l'étranger, il faut le rappeler, c'est ceux qui ont les moyens de payer. Hein.
Bien sûr.
Il n'y a qu'une minorité qui a des bourses de l'État pour faire ses études à l'étranger. Donc là, ceux qui ont vraiment les moyens d'aller aux États-Unis, c'est ceux qui ont des familles derrière eux ou qui s'endettent pour aller aux États-Unis, etc. Donc ça accroît aussi, donc ça favorise dans certains groupes sociaux par rapport à d'autres. Il y a aussi bien sûr ceux qui sont proches des autorités, qui ont certainement des passe-droits. On sait très bien qu'en Chine, il y a une corruption importante dans certains domaines pour accéder à certaines fonctions et à certains avantages. Donc, c'est pas du tout pour dévaloriser ce qu'a dit notre collègue, c'est plutôt pour montrer qu'il y a aussi, comme partout, des luttes, hein, des luttes politiques, des luttes sociales. Alors, sur le rôle du Parti communiste, moi, j'ai eu une expérience de ça quand j'étais dans cette université à Shanghai, où on était juste à l'anniversaire de c'était en 2009, donc c'était le 60e anniversaire de la prise du pouvoir par le Parti communiste. Donc il est comme ça se déroule en septembre-octobre, il y a une cérémonie dans l'université où tout le monde doit venir, il y a un discours.
Et c'était l'anniversaire de la création de la République populaire de Chine.
Oui, bien sûr. Non, mais celui qui parle, le seul qui a le droit de parler, c'est le secrétaire du Parti communiste de l'université. C'est pas spontané, c'est pas, tout le monde n'a pas le droit, comme le 14 juillet en France, d'aller danser. C'est vraiment quelque chose qui montre bien l'emprise du système politique, et on sait très bien qu'il y a des professeurs dans l'université qui ont plus de poids que d'autres parce qu'ils sont proches des cercles dirigeants du parti dans l'université. Donc c'est pas du tout simplement des reprises ou des remarques du ministre comme ça dans le vague. Il y a une emprise réelle au niveau de chaque université de la structure du Parti communiste. Donc il y a une surveillance. Bon, c'est vrai qu'il y a une plus grande liberté que ce qu'on avait pu connaître, bien entendu, à l'époque de la révolution culturelle ou de périodes plus antérieures du système. Mais il y a des domaines où vraiment on sent le poids politique.
Vous l'avez senti en tout cas.
Non, moi je ne l'ai pas senti parce que nous on était invités.
Si, vous l'avez senti.
Enfin, on l'a vu, mais je veux dire, nos collègues nous en ont parlé plutôt dans les nominations, dans les promotions. Enfin, il y a des phénomènes clairs.
Allez, on va quitter la Chine, on va revenir du côté de l'Europe. Parfois présenté comme l'anti-classement de Shanghai, You Multirank, un classement lancé en mai 2014 par la commissaire à l'éducation Androula Vassilou. On va retrouver la porte-parole de la Commission européenne pour les questions d'éducation, de formation et de la jeunesse. C'est Nathalie Van Dijkstad. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Multirank, on va essayer de comprendre ce que c'est. Si j'ai bien compris, c'est un outil d'évaluation des performances de plus de 1200 établissements d'enseignement supérieur. C'est ce qu'on lit sur le site. 1850 facultés, 7500 programmes dans plus de 80 pays. La philosophie de ce classement, laquelle est-elle? Si j'ai bien compris, l'objectif, c'est de changer de regard et de se placer du point de vue de l'étudiant. C'est bien ça. La philosophie générale, globale, c'est celle-ci.
C'est bien ça. En fait, la Commission européenne a répondu à une demande à l'époque des États membres en 2008. C'était d'ailleurs la présidence française à l'époque du Conseil de l'Union européenne, d'une demande d'un classement qui aille au-delà des classements qu'on connaît traditionnels comme celui de Shanghai ou du Times, qui aille au-delà des performances, notamment se concentrant surtout sur la recherche, pour prendre en compte d'autres paramètres très importants pour l'étudiant, mais également pour les professeurs.
Alors, lesquels en particulier, justement?
Alors, lesquels en particulier? On se base sur 5 grands aspects. La recherche, bien sûr, mais aussi la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, la dimension internationale, le transfert de connaissances, et ce qui compte beaucoup aux yeux de la Commission, l'engagement régional des universités et des institutions d'enseignement supérieur. C'est un classement indépendant, comme vous dites, qui a connu ses premières années, donc 2014-2015, avec ses premiers résultats, qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. Donc c'est pas la Commission qui le gère directement, c'est un classement qui est géré par un consortium d'organisations. mais qui est financé par la Commission européenne, en tout cas pour ses premières années, jusqu'en 2017.
Et puis je parle d'un classement, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un classement, parce qu'on note en gros les établissements. On a une note de A à E, mais on ne hiérarchise pas en réalité.
Exactement. Ouais. Contrairement en fait au classement traditionnel, il reconnaît que les utilisateurs de ces classements ont des préférences et des priorités différentes à l'égard de ce qu'ils recherchent dans une université. C'est pourquoi en fait Umultirank laisse aux utilisateurs le soin de juger de la pertinence des différents critères. Donc ils font leurs recherches à travers l'outil internet interactif que propose le site Umultirank eux-mêmes, en fait, en fonction de leurs propres critères de recherche.
Alors, que nous dit très rapidement les grands résultats, peut-être, Nathalie Van Nistelrooy, des deux éditions, parce qu'il y en a eu une en 2014, une en 2015. Alors, que révèlent ces évaluations, puisque ce n'est pas un classement? Par exemple, la France, est-ce qu'elle s'en sort mieux que dans le classement de Shanghai?
Alors, je ne vais pas vous donner... Alors, la France est particulièrement bien représentée parce que c'est proportionnellement le pays qui implique le plus d'universités ou d'institutions d'enseignement supérieur dans ce classement. Elles sont à peu près 70. En effet, on a eu deux premières publications sur les classements 2014-2015 qui soulignent à quel point ce classement aide à changer en fait la compréhension des classements en mettant en valeur notamment l'université, mais aussi ce qui entoure l'université, donc les entreprises, la région, la qualité de l'enseignement, la capacité à trouver un emploi après avoir fait ses études. Alors il y a des résultats en effet détaillés, je vais pas ici tous les donner parce qu'ils sont disponibles, puis encore une fois la commission soutient financièrement ce projet et tout à fait derrière. Mais
bon, alors je renvoie les auditeurs peut-être effectivement au site sur lequel ils pourront trouver des informations. Mais alors je vais peut-être critiquer ce qui n'est pas un classement, ce qui est un outil d'évaluation, peut-être d'aide à l'orientation pour les élèves. Mais on comprend bien finalement les raisons qui ont poussé les Européens à établir ce classement. Ça a l'air d'être un outil plus complexe, plus précis, peut-être plus proche de la réalité finalement.
Multidimensionnel.
Très bien. Et c'est là où je voudrais en venir. Finalement, il ne s'inscrit pas dans cette course à la performance. Et c'est peut-être sa faiblesse qui fait la grande force, d'une certaine manière, du classement de Shanghai. Même s'il est très simple, voire carrément simpliste, c'est qu'il est lisible, c'est qu'il hiérarchise les établissements. Chaque établissement a un score, ce qui s'inscrit malheureusement très bien dans cette tyrannie du chiffre qui dicte tous les domaines de notre vie, de l'économie jusqu'au sport, en passant justement par l'université. Et c'est aussi, d'une certaine manière, ce qu'attendent les élèves. Est-ce que l'Europe a vraiment compris les enjeux de la compétition mondiale avec cet outil? Une fois encore, est-ce qu'on passe pas à côté de la course à la performance qui se joue pourtant autour de nous, et y compris dans le domaine universitaire?
L'objectif de ce classement, c'était pas de concourir avec d'autres classements déjà existants, c'était d'offrir une autre perspective plus large de l'offre universitaire au niveau européen, mais aussi mondial, puisqu'on prend en compte d'autres, pas seulement les universités européennes. Et
c'est la compétition aujourd'hui qui compte, Nathalie Van Nistelrooy.
Oui, c'est la compétition, mais on considère qu'il y avait de la place pour un autre type de classement qui n'était pas seulement le palmarès des publications ou de la recherche. C'était aussi la qualité et l'originalité de certaines offres universitaires qui ne sont pas forcément reprises dans les palmarès les plus médiatisés.
Et les étudiants l'utilisent, Nathalie Van Nistelrooy?
Alors, encore une fois, on a deux années plutôt positives d'un bilan plutôt positif. On va continuer à le défendre. Évidemment, il faut le promouvoir, il faut le faire connaître, mais c'est pas. C'est un outil vraiment de choix pour aider les étudiants à choisir leur enseignement, mais pour permettre aussi aux institutions, et c'est là où ça dépasse seulement le cadre de l'étudiant, aux institutions d'identifier, de développer leurs points forts et d'identifier leurs points faibles, évidemment. Donc de se comparer, c'est vraiment un outil de comparaison dans différents domaines, donc ce que je vous ai cité, les cinq domaines, les cinq aspects principaux.
On comprend parfaitement le principe. J'aurais voulu avoir le regard de Christophe Charles justement sur cet outil d'évaluation.
Oui, effectivement.
Et puis peut-être sur la critique que je formulais.
Non, c'est pas du tout le même principe que les autres classements dont vous parlez. Il s'agit effectivement de voir comment une université répond à certains types d'enseignements, à certains types de formations, à certains types d'interactions avec le monde extérieur. Et effectivement, ça peut aider un étudiant à dire, bon, ça me convient parce que moi, ce que je veux faire plus tard, c'est ça. Donc, cette université est bien située pour ça. Et du coup, je m'en fiche que ces professeurs n'aient pas le prix Nobel. Ce qui m'intéresse, c'est telle orientation. Donc, c'est évidemment une vision très pragmatique et beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'un étudiant choisit que ce classement purement académique qui est proposé par les autres classements.
Donc ça vient vraiment en complémentarité, ça vous semble être utile.
Enfin, c'est une autre logique, c'est une logique d'utilisation, hein, comme quand vous achetez un aspirateur, est-ce que j'ai besoin d'un aspirateur qui fait du bruit ou pas de bruit, est-ce que j'ai un aspirateur qui veut être puissant ou pas trop puissant, est-ce que je vais aspirer plutôt tel matériau ou tel autre. Voilà, c'est une vision très pragmatique.
Bon,
donc c'est pas du tout une vision de compétition sportive, et d'ailleurs la compétition sportive pour moi c'est pas du tout une métaphore utilisable pour l'enseignement.
Bon, eh bien écoutez, nous verrons, nous mesurerons d'ici une dizaine d'années, voir si effectivement le multirank aura...
L'université, c'est de former le maximum de gens et qu'ils arrivent à trouver leur voie. C'est pas de faire uniquement des champions olympiques.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Mais je crois qu'on ne peut plus d'accord, Christophe Charles, sur ce point. En tout cas, on verra peut-être dans une dizaine d'années ce que le U-Multirank aura trouvé comme écho auprès des étudiants. En tout cas, un grand merci à Nathalie Van Dustadt d'avoir été avec nous, la porte-parole de la Commission européenne pour les questions d'éducation, de formation et de la jeunesse. Et puis un grand merci à vous, Christophe Charles, de nous avoir accompagnés pour cette première émission de cette série sur les universités qu'on va poursuivre dès demain et jusqu'à jeudi. Je rappelle deux de vos ouvrages, La dérégulation universitaire, mais aussi Histoire des universités, mais également Quelques diagnostics et remèdes urgents pour une université en péril. On mettra tout ça sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Caroline Brouet, mais juste avant de la retrouver sur France Culture, La Vie Moderne. Très belle journée, à demain.